Du 25 au 28 janvier 2024, l'association Écologie au quotidien organisait ses 22e rencontres de 10 intitulées « Agir pour le vivant ». Erdiwa était convié à prendre la parole de quelques intervenants présents lors de ces 4 journées. Julie Tessuto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici au sein des rencontres de l'écologie pour deux rendez-vous que vous avez donnés. L'un hier avec une conférence gesticulée intitulée « Ma petite robe rose et mini-bar ». Et aujourd'hui, vous proposiez un atelier sur le consentement et si on en parlait. Avant tout, vous êtes comédienne, auteur ?
Non, ni l'un ni l'autre. Moi, je faisais des études de sciences politiques. J'avais une bourse de recherche à l'université. J'étais en Belgique à l'époque. Et en fait, ce projet-là faisait plus trop sens pour moi. Et j'étais un peu féministe toute seule dans mon coin. Et donc là, j'ai vu une formation pour faire une conférence gesticulée. Donc qui était 3 jours par mois pendant mars, avril, mai, juin, pendant 4 mois. Et donc, j'ai suivi cette formation pour créer cette conférence gesticulée.
Une conférence donc qui est née en 2017 et donc qui traite contre la culture du viol, ensuite de l'éducation aux sexualités, parce que au pluriel, et au féminisme également au pluriel. Donc, peut-être aborder ces sujets autour de cette culture du viol.
La conférence gesticulée, elle part vraiment de cette culture du viol en fait, dans laquelle on est toutes et tous. Hein, comme j'essaye de ne pas oublier de le raconter dans la conférence gesticulée, je suis moi aussi imprégnée de cette culture. Hein, donc je vais aussi moi avoir des réflexes lorsque je vois une jeune femme en jupe très courte avoir des réflexes de me dire qu'il va peut-être lui arriver des ennuis. Et puis après, ben, j'ai mon petit yo-yo féministe qui se met en route et où je me dis ben, non, en fait, c'est pas comment elle s'habille le problème, ça va être plutôt ce qui l'entoure. Et donc, cette conférence gesticulée, elle déconstruit tous ces mythes en fait, de cette culture du viol. L'inconnu, tard le soir dans la rue, les hommes qui sont tous des agresseurs en puissance et qui ne peuvent pas se retenir. Qu'est-ce qu'il y a quoi d'autre encore et l'image du monstre, surtout, puisque j'ai aussi une grosse partie sur les enfants, l'inceste et donc les violences sexuelles faites aux enfants. Et donc aussi de déconstruire cette idée, puisque déjà 40% des viols et tentatives de viol faites sur des femmes adultes, ce sont leurs conjoints ou ex-conjoints. Et que quand on est enfant, bah, c'est un membre de la famille et en premier le père, hein, comme l'a mis en avant la commission sur l'inceste, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS. Donc voilà, il y a vraiment toute une partie un peu pour déconstruire qu'est-ce qui fait qu'on pense comme ça, qu'est-ce qui fait qu'on nous fait penser comme ça. Et en gros, un peu ce système patriarcal hein, de domination des hommes sur les femmes, donc vraiment du groupe ou de classe d'hommes sur la classe des femmes. Et tout ce qui en découle aussi, puisque l'idée, c'est de dire, en gros, dans ce système-là, et cette catégorisation, si vous n'êtes pas un homme blanc, en gros, voilà, si vous êtes une femme noire, trans, etc., mais ça ne va pas être chouette pour vous, ça va mal se passer. Voilà. Donc, il y a aussi des structures hein, qui accompagnent tout ça, évidemment. On n'est pas que dans l'individuel. Et il y a une deuxième partie qui est plus sur... alors, une partie plutôt rigolote où on va chanter tout, tout, tout sur le clito, par exemple. Où là, je reviens un peu sur l'histoire du clitoris, qui est assez emblématique de l'invisibilisation du plaisir dit féminin. Et donc, de l'invisibilisation de cet organe sexuel uniquement dédié au plaisir. Et ce qui me permet ensuite d'arriver sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et donc, quand j'écris « oui, les sexualités », c'est plutôt la sexualité, parce que je ne vais pas parler de la sexualité adulte, en fait, dans cette conférence. On l'aborde, évidemment, en déconstruisant la sexualité hétérocentrée, patriarcale, etc. Mais c'est surtout pour parler de comment nommer les choses et comment... faire que nos ados soient déjà des petites personnes qui ont réfléchi au consentement, en vivre ensemble et à prendre en compte ce que la personne en face et le potentiel partenaire pourrait dire et le respecter, l'entendre, etc.
Il y a cette culture du viol. À partir de quel âge la personne est confrontée justement à ce type de culture ?
Eh ben, un exemple que je prends dans la conférence gesticulée, c'est vraiment le truc de ces discours adultes qu'on va poser sur des enfants et où on va dire, par exemple, d'une petite fille de 3 ans qui, pour X ou X raisons, va être en interaction avec une personne adulte masculine, à qui on va dire « elle charme », par exemple. Et donc, en fait, dès qu'on est, on va avoir une projection comme ça. Alors là, c'est assez spécifique de sexualisation d'un comportement d'enfant qui n'a absolument rien de sexuel, mais donc voilà, sur lequel on va plaquer un discours adulte et un discours adulte fortement ancré dans cette culture du viol. Et un autre exemple que je prends, c'est... culture du viol, consentement, ça passe aussi par, en fait, apprendre aux enfants, hein, filles ou garçons, à entendre et respecter sa personne et son consentement, en fait. Et donc, comment on veut pouvoir dire à quelqu'un « mais t'as pas respecté son consentement » si vous, à 4 ans, on va te dire « fais un bisou à tati, ben non, j'ai pas envie, ben si, en fait, tu vas le faire quand même ». Alors, c'est un exemple souvent cliché où on dit « ben, faut pas exagérer », mais... il y a d'autres formes de politesse. On peut dire bonjour d'une autre façon, on peut dire au revoir d'une autre façon. Et c'est quand même un message qu'on envoie à un enfant de dire bah, « je respecte le fait que tu n'as pas envie que ton corps aille en contact avec le corps d'un autre, mais surtout qu'on respecte ta parole et ce que tu proposes. » Donc c'est un des exemples parmi tant d'autres. Voilà.
Pour situer un peu le contexte, est-ce qu'il y a un peu discerné... une phase plus importante de la culture du viol en cité urbaine ou rurale. Ça, c'est, je ne sais pas s'il y a un constat peut-être plus poussé sur un secteur ou l'autre.
Alors, je ne parlerai pas de ce que je ne connais pas. Donc, je ne suis pas spécialiste là-dessus. Par contre, et ça, je vais le répéter, le dire haut et fort, il y a des violences... faites aux femmes, il y a des violences sexuelles faites aux enfants dans tous les milieux. En tout cas, si je parle un peu de ce que je connais, les violences faites aux femmes en milieu rural, ce qu'on va retrouver, c'est un isolement. Donc ça va être plutôt sur les conséquences où là, elles vont être beaucoup moins accompagnées, suivies, elles vont avoir beaucoup moins de ressources économiques, mobilité. Hein. Par exemple, quitter un conjoint violent, c'est aussi pouvoir se déplacer seul, pouvoir travailler, etc. Donc peut-être plus dans le traitement. Après voilà, en tout cas au niveau des chiffres, la CIVIS encore, donc dont je parlais, ce rapport-là sur les violences faites aux enfants, c'est dans tous les milieux, vraiment. Et c'est pas ce qu'on veut nous faire croire, la famille populaire ou le cliché, ce serait l'homme alcoolique. Enfin voilà, il y en a aussi, mais c'est vraiment dans tous les milieux qu'on retrouve toutes ces violences faites aux femmes, en fait. Et c'est un miroir, finalement, aussi de la société sexiste et patriarcale dans laquelle on vit. Ça va être plus facile pour certains médias de pointer, encore une fois, les classes populaires ou même, par exemple, les personnes immigrées ou en situation irrégulière sur ce genre de problématiques, hein, comme le fait l'extrême droite, en fait, tout simplement. Par contre, quand il s'agit de s'intéresser... Depardieu, j'ai pas. Enfin voilà, on va peut-être pas parler de Depardieu, mais en tout cas, quand il s'agit de s'intéresser du notable du coin qui connaît tout le monde, y compris le magistrat, parce qu'il est médecin très renommé, là, on va moins en parler, etc. quoi.
Vous parliez de la Civise, mais est-ce qu'il y a aussi, vous vous documentez ? D'ailleurs, votre conférence gesticulée évolue-t-elle avec le temps ? Et donc, est-ce qu'il s'enrichit aussi de l'actualité et vous vous appuyez sur certains aspects ? Et notamment, quelles sont vos documentations pour affiner un peu le propos ?
Alors, il y a deux choses. La conférence gesticulée, donc, c'est un outil d'éducation populaire. Donc, l'idée, c'est que on parle d'où on est, on parle de nous avec nos anecdotes personnelles qu'on va agrémenter de savoir plus théorique. Donc, oui, elle est en constante évolution, comme moi, je suis en constante évolution. C'est pas parce que je suis féministe et que je vais dénoncer ça que moi, je suis parfaite et que j'ai tout compris, que je fais tout bien. Donc, évidemment, qu'il y a des choses dont je parlais pas avant, que je parle aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. Et d'alimentation constante de... des débats dans l'actualité, mais aussi de lectures féministes, etc. Et ensuite, oui, ben, donc je parlais de Gérard Depardieu. Ben, j'en ai parlé hier soir. Voilà, c'est des choses qui parlent aussi aux gens, puisque c'est dans l'actualité. Il y a le Haut Conseil à l'égalité, aussi le HCE, qui vient de sortir un rapport sur le sexisme en France, alors que j'ai pas assez épluché, mais je veux dire qu'ils montrent des chiffres, et donc ces chiffres-là, moi, je vais évidemment les intégrer au fur et à mesure.
Je reviens sur l'application du pluriel sur ces termes donc, de sexualité et féminisme particulièrement. Oui. Il y a pour vous plusieurs féminismes.
Il y a tout un tas de féminismes. Je pense que quand on voit ma conférence gesticulée, on peut clairement dire de quel féminisme je ne suis pas. Alors, je ne peux pas tous les citer, mais en gros, je pourrais en opposer deux, le féminisme matérialisme et le féminisme universaliste. Et donc, l'idée de mettre féminisme au bout, c'est aussi l'idée très féministe, du coup, de ne pas non plus essayer d'imposer quelque chose, même si c'est un peu paradoxal ce que je vous dis, puisque je me place d'un certain point de vue. Mais c'est aussi pour dire que dans la société, il n'y a pas le féminisme, en fait. Il y a énormément de féminisme. Il y en a peut-être aussi qui s'affichent comme féminisme et qui ne le sont pas vraiment. Je pense à des féminismes qui ne vont pas prendre en compte toutes les femmes, toutes les situations de femmes, ou qui ne vont pas prendre en compte les situations économiques des femmes et le système... de classe, par exemple. Bon, voilà, quand je dis ça, c'est un peu fort, mais l'idée des S, c'est ça. Et la sexualité aussi, c'est toujours cette idée, en fait, que... en fait, les féminismes, c'est... moi, je pense que c'est un mouvement collectif révolutionnaire, au sens où ça modifie vraiment des structures et des façons de penser qui sont là bien ancrées et qu'on va totalement essayer de renverser. Et donc les sexualités, c'est la même chose, c'est pour essayer, là encore, et comme je disais, je parle plus d'éducation à la sexualité que de sexualité. Et comme je dis aussi dans la conf, moi je suis pas exempt, enfin je veux dire, je suis hétérosexuelle, donc j'ai forcément une vision limité de ça, donc, mais l'idée, c'est de nouveau de déconstruire peut-être l'hétérocentrisme, la pénétration qui est très très centrale, mais dans voilà, une vision de la société globale et qu'on va imposer, alors qu'il y a plein d'autres façons de faire, d'avoir une vie sexuelle ou pas d'ailleurs, ça rentre aussi dedans.
Il y a parmi les féminismes, est-ce qu'il y a aussi une entrée de l'extrême droite sur certains aspects et qui amène la confusion, parfois la zizanie ? Est-ce que ça, c'est une chose que vous avez remarquée ou entendue ?
Alors, je vais, pareil, essayer de parler de ce que je connais vraiment. Alors, je ne vais pas trop les citer pour pas trop leur faire de pub, mais voilà, il y a des collectifs clairement féministes qui sont clairement d'extrême droite et donc qui vont remettre au centre la préférence nationale, enfin des choses comme ça. On a vu d'ailleurs les affiches d'Éric Zemmour, il me semble, aux dernières élections, avec une femme voilée. Alors je sais plus quel était le slogan, mais en gros, pas de ça chez nous. L'extrême droite encore, voilà, instrumentalise. On parlait des féminicides ou des viols et ils vont mettre uniquement en avant ce genre de violences faites aux femmes lorsqu'elles le sont par quelqu'un d'origine étrangère, comme on l'a vu récemment. Et plus particulièrement sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Alors, ça a peut-être fait un peu moins de bruit en France, mais en tout cas en Belgique, il y a eu un mouvement assez virulent, puisque donc l'EVRAS, hein, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, se pratique déjà en Belgique, mais là, il y a eu une espèce de systématisation d'application de ces cours à l'école, avec des formateurs, avec des personnes certifiées, etc. Et là, il y a eu vraiment un lever de bouclier en disant on va apprendre à nos enfants à se masturber. Alors que tout ça, c'est faux. Et donc, et là, c'est aussi ce qu'on a vu avec la Manif pour tous. Je pense aux ABCD de l'égalité, qui étaient voilà, des petits livrets dans lesquels on devait apprendre aux enfants c'est quoi des stéréotypes sexistes. Et on doit, en tout cas, voilà, les filles et les garçons n'ont pas à être différents. Vous pouvez aussi pleurer, etc. Et là, il y a eu tout un lever de bouclier avec la Manif pour tous. Donc extrémiste aussi de religieux dans ce sens-là, pour dire oh mon Dieu c'est horrible, voilà. Après je peux pas trop parler plus.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA,
la radio du Diwa.
107.5,
101.7
FM.
Ma petite robe rose et minibar, c'était une évidence pour vous ce titre?
Alors ce titre, je l'ai trouvé avec deux collègues et devenus amis depuis, à l'époque. En fait, c'est une des anecdotes de la conférence gesticulée, qui est peut-être pas centrale, mais qui est une de ces anecdotes quand même importantes, et qui reprend en fait un peu, je trouve pas mal quand même, l'idée... Enfin, dans laquelle on retrouve vraiment l'habillement, la petite fille, les nibards. Donc on a un peu déjà une lecture présupposée de culture du viol, d'hypersexualisation. Et puis c'est un titre, alors aujourd'hui je dis plus trop mes nibards, je dis plutôt ma petite robe rose toute D'accord. seule. Après il faut aussi trouver un titre qui parle, hein. Après ça dépend à qui on s'adresse, mais donc voilà. Et je trouve que le sous-titre, souvent on l'oublie. Culture du viol, éducation à la sexualité et féminisme, on l'oublie alors qu'il est quand même important et qui nomme aussi de quoi on va parler plus précisément.
Vous parliez tout à l'heure du clitoris. Avant le Covid, il y a eu vraiment un mouvement au niveau de DIE avec quelques femmes qui promouvent justement l'apprentissage de cet organe, avec des constitutions d'effigie aussi, en petites poupées et tout ça. C'était vraiment... on entendait beaucoup ça au niveau médiatique aussi. Et après, qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? On a quand même... en tout cas, le clitoris, on le représente uniquement depuis 2017. De manière complète dans les manuels scolaires. On en parle dans les manuels scolaires, et c'est encore pas tous les manuels scolaires, hein, parce qu'il y a plusieurs éditions de manuels scolaires. Donc il y a quand même un... c'est toujours pareil, en fait, hein, ce genre de mouvement collectif qui émane de la société va permettre des changements sociétaux plus importants. Donc voilà, ça sert un peu à ça. Je pense, j'espère... qu'il y a de plus en plus de personnes qui savent ce que c'est, qui savent où c'est, qui savent ce que ça peut procurer.
Deuxième chose, donc l'atelier sur le consentement, et si on en parlait. Donc ça, c'était ce matin, et ça consistait en deux groupes, en groupes de personnes, en cercle, et donc ce sont des animations qui s'opèrent à l'aide de jeux de cartes. Donc comment s'aborde justement ce jeu, et comment vous introduisez cet atelier?
Donc moi j'ai créé la conférence gesticulée en 2017, et donc aujourd'hui je crée mon activité d'éducatrice en santé sexuelle et prévention des violences sexuelles faites aux enfants. Et donc je propose depuis quelques temps maintenant, voilà, des ateliers autour de cette conf, mais aussi de manière indépendante, pour parler donc de prévention des violences sexuelles avec les parents notamment, mais aussi voilà, parler par exemple le consentement, qu'est-ce que c'est. Donc là l'idée c'était C'était pas forcément nécessaire d'avoir vu la conférence gesticulée avant, mais l'idée c'était d'aller un peu plus loin dans le consentement, parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on entend énormément. C'est un mot aussi qui veut peut-être pas forcément dire ce qu'on entend derrière, puisque consentir à, enfin, il y a une espèce de disposition en fait de celle qui consent, puisque le plus souvent on demande aux femmes de consentir, hein, on demande rarement aux hommes, hein, dans cette lecture hétéropatriarcale de consentir à quelque chose, puisque c'est l'homme qui propose. Et donc c'était d'aller plus loin. C'est quoi le consentement ? Et encore une fois, c'était vraiment peut-être moins dans les relations sexuelles et intimes que dans tous les jours. Le consentement médical, le consentement dans l'éducation des enfants, mais donc pas seulement dans mon corps, c'est mon corps, mais aussi dans est-ce que, voilà, comme on disait tout à l'heure, est-ce que tu as envie de faire ça ? Eh ben non, en fait, si tu as fait mal à la petite fille, tu lui fais pas un petit bisou. Et comment, entre adultes, nous, on va instiller un peu du consentement comme ça au quotidien. Et du coup, ce jeu de cartes, en fait, je m'inspire d'un jeu de cartes qui a été créé par la Fédération des centres de planning familial en Belgique. Et donc, il y a trois items dans ce jeu de cartes. Donc, les petites situations où là, je mets les personnes par groupe de 4-5. Et où ils lisent, voilà, une situation que moi j'ai décrite, et ils en discutent entre eux, et ensuite on en commun. Et puis ensuite, il y a deux sortes de cartes qui viennent vraiment appuyer ce qu'on a vu, qui sont des questions toutes bêtes, hein, par exemple, céder, est-ce consentir, qui ne dit mot consent, si j'ai pas dit oui, si j'ai pas dit oui, alors je suis d'accord. Enfin voilà, pour aller un peu plus loin. Et puis il y a aussi, ou encore je pense à cet exemple, vous en tant qu'adulte, vous aimeriez pas qu'on vous oblige à faire la bise à quelqu'un. Alors pourquoi ça devrait, on devrait le faire avec les enfants. Et puis un dernier item qui est plus sur la loi, où là il s'agit plus d'aller, c'est quoi un viol, c'est quoi la définition, c'est quoi le harcèlement sexuel, quelles sont les parties du corps qui sont concernées, qu'est-ce qu'on peut faire en cas de harcèlement au travail aussi, qu'est-ce qui est mis en place par rapport à la loi, et d'aller du coup un peu plus discuter de la justice par exemple, comment le consentement n'est pas du tout défini dans les textes de loi français, donc d'amener un peu comme ça de l'eau au moulin à cette notion-là, quoi.
Pour ces ateliers, est-ce que vous avez le soutien d'associations, d'organismes, et sur quels endroits vous pouvez les pratiquer ?
Alors, je peux avoir le soutien, par exemple, je peux être invitée par le planning familial, donc ça m'est arrivé dans le Cantal, par exemple, où je venais jouer la conférence gesticulée, et voilà, le tissu associatif a contacté le planning qui m'a fait intervenir en collège et lycée. Donc la collège, c'était plus sur la puberté, voilà, quels sont les changements qui s'opèrent à la puberté, avec cette volonté de ma part de parler autant aux filles et aux garçons de ce qui se passe chez l'un chez l'autre, pour qu'on ait à peu près tous et toutes les mêmes connaissances. Ou encore, c'était plutôt culture du viol avec des lycéens, donc un peu plus grands. Mais donc ça peut être dans des festivals, ça peut être dans des réseaux parents aussi. Et puis à terme, moi je suis en train aussi de me former plus pour être formatrice, et moi à terme j'aimerais vraiment aller voir les travailleurs sociaux, l'aide sociale à l'enfance, toutes les associations d'aide aux victimes aussi, la magistrature, les personnes qui travaillent en crèche, qui sont en contact d'enfants, voilà.
Il y a aussi, vous en parliez tout à l'heure, en Belgique, ces espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle. Qu'est-ce qu'on y trouve et comment s'opèrent-ils ces espaces ?
Alors là, le planning familial pourra vous en dire beaucoup plus. Hein, c'est les travailleurs donc, du planning qui animent ces espaces-là. Mais je pense que l'idée, c'est vraiment de parler de tout ça. Alors, MST, IST aussi, évidemment, de donner cette information-là, de délivrer de l'information sur les pilules, les centres de planification, l'IVG, si on a besoin d'avoir recours à l'avortement. Mais qui se déplacent aussi dans les écoles et qui font de la formation avec les élèves.
Est-ce qu'il existe une sérénité dans cette activité, ou alors parfois il y a des contraintes ?
Une sérénité, moi je dirais du plaisir et une grande luminosité. Non, ça fait un peu... Je disais ça ce matin, mais moi je trouve qu'il y a un challenge de se documenter, comme on disait un peu avec la conf, d'être toujours à jour, d'essayer de rien louper, et puis d'aller se former sur tel sujet, parce qu'en fait on n'a pas trop lu là-dessus, etc. Et en même temps, il y a quelque chose d'hyper lumineux, voilà, c'est ça que je voulais dire, dans le partage aussi des ateliers et le retour des personnes. Déjà, le partage et de tout ce qui va être dit pendant cet atelier, mais aussi le retour, voilà, comme ce matin, où on me disait, bah, j'aurais aimé avoir ça, là, j'aurais peut-être plus aimé avoir ceci et cela. Et donc, c'est aussi quelque chose de perpétuel, en fait, dans lequel on va évoluer tout le temps et se remettre en question. Et c'est plutôt... c'est pas une remise en question qui met en danger, c'est plutôt une remise en question qui alimente ce désir de continuer, en fait.
Vous abordez des collégiens, des lycéens par rapport à vos ateliers. C'est l'âge idéal pour la compréhension des sujets, du discours.
Alors, moi, j'ai très peu fait collégiens, lycéens. J'ai jamais fait les petits, plutôt maternels. Mais moi, j'adorerais aller dans les écoles avec les 4, 5, 6, 7 ans.
J'abordais les adolescents, mais effectivement, vous pensez que c'est plus propice déjà d'aborder ces problèmes de sexualité, d'éducation à la sexualité, beaucoup plus jeune, mais avec certainement une image, j'imagine.
Alors oui, ce qu'on appelle éducation à la vie affective, relationnelle, hein, je mets vraiment les deux là en premier, et sexuelle ensuite. C'est en fait de discuter un petit peu du vivre ensemble, d'abord. Ensuite de son corps, de son intimité, de c'est quoi l'intégrité, et puis de c'est quoi l'autre en face, comment j'interagis avec l'autre. Et donc, avec des enfants dès l'âge dès qu'ils sont scolarisés, en fait, hein, puisque ça existe, hein, normalement. On doit avoir 3 séances par an qui ne sont pas du tout mises en place. Hein. Mais donc, dès 3 ans, c'est vraiment ça. C'est venir discuter des émotions. Alors déjà, premièrement, puisque on sait que les petites filles et les femmes vont être beaucoup plus dans le partage de leurs émotions. Si elle pleure, voilà, c'est pas grave, etc. Et en même temps, ça va être dévalorisé à l'âge adulte, hein, puisqu'il faut contenir ses émotions, être dans le contrôle des émotions. Et à l'inverse, les petits garçons, donc là, on est dans les stéréotypes de genre aussi, évidemment, les petits garçons, on va leur dire, tu dois pas pleurer, tu dois être fort, tu dois pas... Hein. Bah donc voilà, là, ça commence. C'est quoi une émotion? Comment on la reconnaît? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et puis bah, là, on peut faire un peu de prévention. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand il se passe quelque chose que moi il me paraît bizarre, et puis pourquoi il faut que tu te fasses confiance si tu vois quelque chose de bizarre. Et donc c'est vraiment ça, c'est l'intimité, c'est quoi. Il y a aussi les bons secrets, les mauvais secrets. On parlait aussi de en CE1, ils voient tout le système digestif, par exemple. Pourquoi on verrait pas le système reproducteur, en fait, au même titre que la sexualité fait partie de la vie pleine et entière de tout un chacun, c'est l'OMS qui le dit, l'UNESCO aussi. Et donc, pourquoi on nommerait pas juste? Et donc, voilà, à 5, 6, 7, 8 ans, c'est nommé, en fait. C'est nommé ces organes, à quoi ils servent. Tous les enfants se masturbent hein, très tôt. Alors, on n'appelle pas ça de la masturbation au sens où... où on entend pour des adultes, ça va être de l'autostimulation. Ça va être de l'autostimulation qui est uniquement centrée sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un enfant ne va jamais se masturber en pensant à quelqu'un d'autre, pas avant la puberté. Donc c'est aussi tout ça. Et encore une fois, c'est pas venir dire, quand on va parler de la puberté au début, c'est pas venir dire « Ah oui, tu dois te masturber, c'est génial, non, c'est juste dire le pénis, il devient dur parfois, et est-ce que tu sais pourquoi, à quoi ça sert ?» Donc encore une fois, c'est expliqué en fait, parce que... Les enfants, qu'est-ce qui se passe? C'est que de toute manière, ils vont ensuite lire plein de choses sur les réseaux sociaux. On sait que les mineurs, les gamins de 10 ans, ils ont tous quasiment 1 sur 2 vu du porno. Enfin, il y a une étude de l'ARCOM qui est récemment sortie et qui montre à quel point les gamins, donc dès l'âge de 12 ans, les filles aussi, mais de façon beaucoup moindre, vont voir de la pornographie. Et donc là, il ne s'agit pas de faire l'apologie ou de critiquer ça. Il s'agit juste de reconnaître que le porno, ce n'est pas la vraie vie, en fait. Surtout, c'est vraiment un condensé de sexisme, de racisme, de violence et de cette culture du viol. Et donc, si on n'explique pas, ben, les ados, ils vont trouver leur réponse eux-mêmes, et comme pour n'importe quoi dans la vie, en fait. Alors, la difficulté, c'est que les parents, ils sont, ben, les parents, ils sont comme vous et moi. Donc, voilà, s'ils ont eu des parents un peu informés ou s'ils sont allés lire des choses, ils vont être à l'aise. Mais en fait, la plupart des gens ne le sont pas. Et donc, c'est aussi pouvoir répondre, savoir comment répondre pour des parents à des choses comme ça. Et juste un exemple très simple qui est souvent repris, c'est que, je vais dire des petites filles, mais des petits garçons, c'est la même chose. Il y a un moment donné où les gamins, vers, que je dise pas de bêtises, vers 5, 6 ans, ils vont souvent être en train de toucher leur partie génitale parce qu'ils les découvrent. Et donc là, il ne s'agit pas de dire « qu'est-ce que tu fais ? Cache-moi ça, arrête !» Mais peut-être que là, on peut juste prendre 2 minutes en disant « ben oui, tu découvres, ça, tu ressens du plaisir en faisant ça, très bien, mais c'est ton intimité en fait et tu ne peux pas le faire devant tout le monde. » Et donc là, déjà, on instaure un autre rapport au corps et à cette sexualité plus tard.
Il y a cet héritage aussi religieux, hein, de la culture française, hein, pour ainsi dire, catholique, avec la notion du péché, de l'enfer. Ça, c'est une chose qui a disparu, hein, on peut dire, mais est-ce que ça tendrait à revenir un peu, justement ?
Alors là, je vais parler en jeu et pas trop en tant qu'experte, parce que j'ai pas beaucoup lu des choses comme ça. Mais pour avoir discuté avec des hommes de 70 ans, par exemple, cette question de la masturbation, c'est quelque chose qui les a quand même bien... que l'Église, en tout cas ces hommes qui ont fréquenté l'Église, c'était quelque chose de tabou et même de... tu ne dois pas avoir absolument de désir de... Et c'est vraiment mal. Et je crois que... Donc là, vraiment, je parle pour moi... peut-être plus pour cette génération-là de parents, jeunes parents et nos parents à nous, de cette culture un peu judéo-chrétienne qu'on a, de la culpabilité, et notamment les femmes, quoi, de cette culpabilité par rapport à la sexualité, à notre corps. C'est sale, c'est mal, tout ce que je peux en dire.
Pour finir, depuis MeToo, est-ce que vous avez constaté une évolution ? Comment la pressentez-vous ou comment la ressentez-vous en France notamment ?
Là encore, j'ai un peu du mal à répondre à ça. On dit que la parole des victimes s'est libérée. Alors moi, ça me fait bien rire. Hein. C'est comme l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. En fait, les femmes et les enfants parlent. Hein. C'est juste qu'on ne les écoute pas. Evelyne Thomas, c'est en 86 qu'elle parle déjà de son inceste sur les plateaux de télé, donc je veux dire, il y a ça bouge évidemment, mais donc voilà, il y a quand même toujours ce constat là. Par contre, il y a peut-être quand même que les victimes osent plus peut-être parler, dénoncer. Mais par contre, quand on voit l'éducation à la vie affective dans les écoles qui n'est pas mise en place et qui soulève des montagnes de préjugés et de peurs dès qu'on en parle, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge et en même temps, il ne faut pas que ça s'arrête là, quoi. Donc il faut vraiment qu'on aille éduquer, etc. Et donc c'est la même chose avec ces grandes médiatisations de violences faites aux femmes. À chaque fois, on est étonné, en fait. Mais en fait, non, c'est un système, c'est là, c'est tout le monde. Donc, en fait, parlons-en et essayons de changer les choses ensemble, quoi.
Pour finir, on peut vous découvrir sur Internet par rapport à des ateliers ou à des conférences gesticulées ou des réflexions.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai un site Internet. C'est julietessuto.wixsite.com, ma petite robe rose. Et donc là, c'est vraiment principalement centré sur la conférence gesticulée. Il y a les dates de représentation qui sont à jour. Il y a les contacts, si vous voulez m'inviter. C'est vraiment avec grand plaisir. Je me déplace en pays francophone. Et il y a aussi un site qui va bientôt arriver pour la question des ateliers. Mais on peut déjà lire un peu des choses là-dessus.
Julie Tessuto, merci en tout cas d'avoir donné un peu de votre temps à RTWA pour cette conférence gesticulée et puis aussi ces ateliers sur le consentement. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup à vous et merci aux Rencontres Écologiques de m'avoir invité et longue vie à elle.
Attends, ma mère, je me défends.